Ces jours dédiés pour l'élévation de l'âme de Fernand Kalfala Ben Rezala. Zichrono Livracha, de mémoire bénie, la question de Yosef.
Ah, j'aimerais savoir pourquoi en fait on doit passer par un shidour, pourquoi c'est aussi cadré, et surtout comment c'est possible de baser sa vie avec la personne avec qui on va passer toute notre vie en fait, comment on peut baser ça en l'ayant vu 4 ou 5 fois.
Ok, je vais répondre avec la méthode Avraham Avinu. Avraham Avinu, son père était vendeur d'idoles. Et un beau jour, son père lui a dit, tu me gardes le magasin, je vais faire une course. Il vient une femme avec une pizza, il dit, je vais donner ça à une idole. Vous voyez, Avraham, il s'énerve, vous ne comprenez pas qu'ils ne mangent pas, ce n'est pas des êtres humains, c'est des pierres, c'est rien, c'est pas des dieux. Il s'est énervé, il a pris une pioche, et il a cassé toutes les idoles, il a mis la pioche dans l'idole la plus grande, qu'il a laissée entière. Son père revient, voit toute sa fortune, tout son magasin complètement saccagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il y a une femme qui a amené une pizza. Les idoles commencent à se bagarrer, qui allait manger la pizza. Le grand, il a pris la pioche, là, il a tous esquintés, et il a mangé la pizza. La pizza était posée devant l'idole. Le père d'Avraham lui a dit, ça va, je connais mon métier, ne me raconte pas des histoires. Alors, papa, tu comprends très bien que c'est des bêtises. Alors, pourquoi tu vends des trucs pareils? Et dès ce moment, Avraham est parti et a connu le vrai Dieu. Quelle est la méthode? D'abord, on va casser les autres méthodes pour comprendre pourquoi la méthode du Shidduch, elle est la bonne méthode. D'abord, on va casser les idoles. Après, on va, vers ta chaîne, manger la pizza. Alors, la méthode non Shidduch, bon, il y a la façon hard et la façon cool. La façon hard, tu vas en boîte pour chercher ta future femme. T'entends rien. Boum, 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 boum. Tu la vois, tu la vois, tu la vois pas. Tu la vois, tu la vois pas. Tu la vois, tu la vois pas. Tu vois des cheveux qui volent. J'ai pas été en boîte, hein, mais j'imagine comment ça se passe. Tu vois des détails qui se dandinent. On va pas rentrer dans le détail. Et tu fais un tour d'horizon. Tac, ton collimateur se noue sur une proie. Et c'est comme ça que ça commence. Bon. Dans le cas où ça va être le bon numéro, on se lit. Et personne ne pense au début, c'est elle. C'est peut-être elle. Il y a une chance sûre. Et on vit avec elle. La façon cool, je sais pas moi, on était à la fac, puis elle s'est à côté de moi, puis je peux emprunter votre stylo, oui, j'en prie. Et puis, elle est mignonne, puis après on se voit, on attend les mules au métro ensemble, ah, c'est vous, ouais, on parle un peu dans la route, et bon, il n'y a rien, puis chaque fois, tous les après-midi, on se revoit au même métro, puis au bout d'un moment, on sort ensemble. Là, on arrive au stade, ou par la méthode hard, ou par la méthode plus cool, qu'on sort ensemble. On sort ensemble, Shomer Negia, bon, dans le cas de la méthode hard, c'est plus rare, mais il y en a aussi, il y a des juifs Shomer Negia qui vont en boîte. Et donc, il y a toutes les variantes, ou Shomer Negia, ou pas Shomer Negia cool, ou pas Shomer Negia hard. Là aussi, il y a toutes les variantes possibles. Une chose est claire, on est copain-copine, et à un bout d'un moment, l'amour, l'attirance grandit, et après un certain temps, la question se pose tout à coup. Cette fille-là, elle, ce garçon-là, il me plaît. Elle me plaît. Peut-être est-ce le bon numéro? Alors, oulala. Là, tout à coup, on se dit, oulala. Là, il faut que... Restons calmes. Il n'y a pas de décision plus grave dans la vie. Genre, si c'est elle ou pas, là, je dois me calmer, garder la tête froide et vraiment juger intelligemment parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, autour de moi, c'est l'hécatombe. Donc, moi, je ne veux pas rater mon mariage, donc je dois y aller mollo mollo et faire quelque part une analyse extrêmement rationnelle, juste, et voir est-ce que c'est mon mazal, oui ou non. Réponse, c'est fichu d'avance. Pourquoi? Il y a une chose qui s'appelle le shohad, pot de vin. La Torah nous dévoile, tu donnes une pièce à un juge pour juger de la façon la plus juste qu'il puisse y avoir. Pas de façon malhonnête, changer le jugement. Tu dis, je sais que vous êtes un bon juge, je vous donne un petit cadeau comme ça pour vous juger vraiment de la façon la plus honnête qu'il puisse y avoir. La Torah dit que par ce cadeau, il est impossible que le juge juge de façon tout à fait honnête. Il va pencher plus vers ton côté. Maintenant, moi, je dois juger est-ce que c'est elle ou pas. Je vois des défauts. C'est normal, tout le monde a des défauts. Je vois des qualités. Je sais que dire non, c'est extrêmement dur. Je vois des défauts. Et je veux que ces défauts auraient normalement légitimé de dire non. Mais comment je peux dire non aujourd'hui? Je suis amoureux d'elle. Si je la quitte, ça va être un déchirement terrible. Et je suis bien avec elle. Ma raison me dit, mon cher ami, tu as vu ces défauts-là? C'est un passe. Cette fille-là, tu te maries avec elle, ça va être un malheur. Mais mon cœur me dit, mais je ne peux pas la quitter, je l'aime trop. De façon inconsciente, et des fois un peu consciente aussi, et c'est obligatoire, ça ne peut pas être autrement, c'est obligatoire. Il y aura une tendance à agrandir les qualités et rapetissir les défauts. Alors, si après que tu as rapetissé les défauts et tu as agrandi les qualités, il y a encore plus de défauts que les qualités, ok, tu as la force de dire non. D'habitude, ce qui se passe, c'est non. Après avoir quitté avec elle, s'il y avait tellement de défauts, tu l'aurais quitté depuis longtemps. Tu vois les défauts, tu les rapetissis, tic, 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 tic. Les qualités, tu les ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et bon, il y a des défauts, mais rapport qualité défaut, il est avantageux pour elle. Mazal tov. Et j'en ai comme ça des milliers qui m'ont écrit, ça va pas du tout, 4, 2, 3 ans après le mariage, c'est terrible. J'avais déjà vu ces défauts avant le mariage, mais j'étais aveuglé par l'amour. Eux-mêmes m'écrivent, j'étais aveuglé par l'amour.
Mais pourquoi?
Pourquoi aveuglé? Parce qu'il est amoureux.
Pourquoi ça change
Hein?
Pourquoi ça change
Ah, pourquoi ça change? Après le mariage, on est très heureux, tout va très très bien, un certain temps. Mais rapidement, la bête qu'il y a en nous, il faut comprendre. Comme j'expliquais ici souvent, hein, avec tes voisins, hein, tu te comportes bien. Tu as une bagarre terrible avec ta femme à la maison, c'est sorti de tous les côtés, la colère, la fumée, d'accord. Tu sors, le voisin, bonjour monsieur, tout va bien? Oui, bon, très bien. T'es souriant et sympathique. Ton directeur te dit, monsieur, vous êtes un triple imbécile, tu dis, oui monsieur. Un quadruple imbécile, oui monsieur. C'est le directeur, tu n'as pas discuté avec lui. Donc, dans les relations avec les autres, on a une maîtrise, on peut encaisser, mais à la maison, je suis chez moi, je ne vais pas me gêner. Donc l'animal qui est en moi, qui a chez nous tous, pas un petit animal, un monstre terrible, se dévoile dans toute sa splendeur. Je te donne un petit exemple, tu vas comprendre rapidement. Dans la phase Shidour fiançailles, c'est très bizarre. Les scientifiques ont remarqué, c'est une étude scientifique très sérieuse, que dans la période fiançailles-chidour, plus 3 mois après mariage, jamais le fiancé ou mari ne rote devant sa fiancée ou sa nouvelle femme. Et 3 mois après le mariage, chez tous les maris, 90%, il y a un déplacement du larynx. Clic ! C'est bizarre, hein ? Ils se mettent à roter devant leur mariage. Je vais être encore un peu plus, excusez-moi, dans le vif et le cru du sujet. Jamais, mais au grand jamais, c'est l'archouma de l'archouma, le fiancé va faire une flatulence bruyante devant sa fiancée. Ça se fait pas. Les premiers mois après le mariage, non plus, mais chez tous les maris, après 1 ou 2 ans, il y a des problèmes digestifs bruyants. C'est marrant. Tout allait bien dans les intestins, puis un beau jour, ça ne va plus. Le mariage cause des problèmes de déplacement du larynx et déplacement du système intestinal. C'est clair, c'est des études très très sérieuses. Hein ? Bien sûr que je rigole. Ça veut dire on se lâche. Et quand je dis ro et flatulence, je suis gentil. On se lâche. Ça veut dire les gros mots, les insultes. J'ai eu des élèves qui étaient doux comme des agneaux. Doux comme des agneaux. Ils m'ont dit après mes âges, mais je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Parce qu'il n'a jamais été en confrontation. Avec les copains, avec le directeur, avec les gens. Ok, ça ne va pas. Ok, bon, on quitte de chambre, on quitte de travail, on s'arrange. On ne va pas se mettre dans tous ces états. Mais là, ta femme, il n'y a aucune personne au monde avec laquelle tu es plus vulnérable. Et elle aussi, donc on est très très rapprochés. Donc chaque petite mauvaise note, elle fait très mal. Et il y a des mauvaises notes. Et quand ça fait très mal, ben, y a une réaction. Quand je souffre, je réagis. Et vu qu'elle est proche, parce qu'on est tellement ensemble, ben, je ne me gêne pas de dire tout ce que je pense. Et quand je m'énerve, eh ben, je m'énerve. Et je sors de mes gonds. Je suis hors de moi-même. Dit-on en français, Hazal dit, notre neshama nous quitte. On est habité par une neshama du côté négatif. Terrible.
Qu'est-ce qui se passe après ça? Donc vous avez dit, les gens, 3 ans après, ils vous ont...
Donc, avant le mariage, on ne sait pas qui on aura. On doit analyser. Le problème, c'est qu'on doit analyser de la façon la plus intelligente qu'il puisse y avoir. La façon non chidour, elle pose un problème. Pourquoi? Parce que pour analyser intelligemment, il faut être neutre. Il faut être rationnel. Il ne faut pas être, pollué par les sentiments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier, puis après tomber amoureux. La méthode occidentale, elle dit non, tu tombes amoureux. Puis une fois qu'il est super accro, là, tu prends la décision, c'est oui ou non. Mais c'est certain que la décision sera fausse. C'est certain que je vais minimiser, diminuer les défauts et agrandir, augmenter les qualités. Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Tous les défauts tric, remontent à leur vraie grandeur qui est énorme et les qualités rebaissent à leur hauteur qui n'est pas si grande. Et en plus, les qualités... Au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. Donc, on était très charmé. Au bout d'un moment, on n'est plus charmé. Il y a une lassitude, il y a une habitude qui rentre. Donc, toutes les qualités, elles baissent. Ça devient râler pas crête. Et les défauts, ils sont terribles. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comprenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Attends, lentement. Je suis dit, attends, je suis en train de détruire. Après, je vais construire.
Tout le monde a des défauts.
Hein? Ouais, lentement. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages. Et les personnes qui n'ont pas encore divorcé, dans la majorité extrême des cas, c'est plus grave que ceux qui ont déjà divorcé. C'est un schlumbite terrible. Pas de schlumbite. La guerre froide, guerre chaude, guerre atomique, tout ce que tu veux. La guerre. Et les enfants qui voient. C'est une crise terrible. Il y a beaucoup de raisons pour cela, mais il y a certainement une raison aussi au niveau du choix, à la base. Et beaucoup m'ont écrit, et c'est une chose, ils se sont trompés. La question que tu peux poser aux gens, et c'est que je pose des fois à des gens, une femme m'écrit, voilà, je suis avec mon fiancé, on s'aime beaucoup, mais ça ne va pas du tout. On s'adore, mais c'est la bagarre sans cesse. Je ne sais plus quoi faire. Il a des défauts, tout ça, mais je l'adore. C'est le cas classique, hein. Et il y en a comme ça des dizaines de milliers. La question que je lui pose, si on vous proposait, vous n'êtes pas, imaginez que vous n'êtes pas amoureuse de ce monsieur, on vous propose un monsieur, voilà, on dit voilà, j'ai un garçon, il est comme ça, et on vous le décrit, avec les qualités qu'il a et les défauts qu'il a. Vous faites une rencontre avec lui? La personne, elle est honnête, si elle est honnête, elle ne dira jamais de la vie, jamais je rencontre un type pareil, avec tous les défauts que je connais de ce monsieur-là. Alors pourquoi je veux continuer avec lui? Je suis amoureuse. C'est-à-dire que l'amour, il vous ment, il vous fait vous tromper. Il a complètement, à cause de l'amour, on est tombé dans un panneau. Parce que s'il n'y avait pas eu l'amour, tu aurais dit non, moi ça, jamais. Même pas rencontré une fois. Un monsieur avec des défauts pareils, jamais je le rencontrais. Maintenant que tu es amoureux, tu es bien embêté. Parce que tu n'as pas la force de juguler le sentiment et d'aller après la raison. Mais la raison, elle est très claire. Elle te dit non, jamais. Et la raison ne se trompe pas. Le sentiment, il se trompe. Le sentiment, il n'est pas rationnel. Le sentiment, il ne sait pas où est la vérité. Le sentiment, il est attiré, c'est tout. C'est une attirance très grande, très puissante, mais qui peut être fausse. Que propose le Shidour ? Au lieu de d'abord tomber amoureux et après juger, on va faire le contraire, on va juger, après on va tomber amoureux.
On peut juger mal avec
le... Attends, lentement, on va expliquer la méthode. Maintenant, je commence à construire la bonne méthode. Après, les questions et la bagarre, d'accord ? Comment se passe un Shidour ? Comment doit se passer un Shidour ? Parce que des fois aussi, il y a des Shidours qui sont mal dirigés. Si possible, une personne qui est intéressée à ce que je trouve une fille qui me convienne. Si possible, connaît une fille qu'il est intéressé aussi à trouver qu'elle trouve un chidour qui lui convienne. Ça, c'est le top. Une personne qui nous connaît les deux, qui est intéressée à faire le bien vraiment de façon désintéressée. Propose de rencontrer. Si on ne peut pas arriver à ce top niveau, alors ok, d'autres biais, chatranime, connaissance, qui je connais, tout ça, ok, proposition. Première chose, on fait une enquête extrêmement serrée. Et ça, c'est important de le faire. Peut-être que j'ai déjà parlé à ta question que tu poses. Il est impossible de connaître la personne avec qui on va vivre. Impossible. On a vu des couples vivre ensemble, non mariés, 10 ans. Ils sont mariés, après 3 mois, c'est parti en cacahuète. Pourquoi ? Parce que le cadre du mariage est tout à fait différent du cadre de l'union libre. Ça n'a rien à voir. Quand on se marie, il y a une consécration nuptiale, il y a un passage d'âme de l'un dans l'autre, il y a, quelque part, on est lié pour toujours. Ça crée une autre ambiance, d'autres raisons, je ne sais pas, c'est différent. Preuve en est que c'est connu, on connaît beaucoup de gens, les gens qui ont vécu longtemps ensemble sont mariés, ça, au bout de 3-4 mois, ça, même moins ou plus, ça n'a pas tenu. Ils ont vécu 10 ans ensemble, ils se connaissent par cœur. Pourquoi ? On est obligé de dire que la connaissance qu'il y a avant le mariage est différente de celle qu'il y a après, donc on ne sait pas. À mon avis, on connaît d'une personne avant le mariage, que 5%. Le 95% est inconnu, même de la personne elle-même. Comme je l'ai dit, j'ai des élèves qui m'ont dit « je ne me reconnais même pas moi-même » parce que tu ne sais pas qui tu es dans le cadre du mariage. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est absurde. Je dois prendre la décision la plus grave de ma vie. Je parle de... Il y a un problème de chambay, c'est terrible. Un divorce, c'est terrible. On ne veut pas ça. C'est peut-être la décision la plus grave de ma vie. Alors, si je suis bête et inconscient, ok, elle me plaît, on se marie. Et bien, au prochain, des fois, ça marche. Dieu, il aide. D'accord ? Souvent, il n'aide pas. Et ça ne marche pas. Et si maintenant, je suis conscient, comment je peux choisir, prendre une décision la plus grave de ma vie où je maîtrise 5% des données ? C'est impossible. C'est pour ça qu'on a absolument besoin de Dieu. Il faut que Dieu se mêle la partie et fasse en sorte que ça marche. Et Dieu me dit, ils sont très très logiques, il me dit, écoute, la partie que tu ne peux pas connaître, ça c'est moi qui est responsable, mais la partie que tu dois connaître toi, que tu peux, tu es obligé de le faire. Donc, il m'incombe, j'ai nécessité par rapport à Hachem, de faire une enquête la plus serrée que je puisse faire. Le FBI, et quand, après que j'ai fait une enquête comme il faut bien, ça correspond à ce dont j'ai besoin, l'enquête, c'est après avec les rencontres, etc., j'arrive aux 5% que je connais, je peux dire à Dieu, écoute, ce que je peux voir, ça marche, c'est bien, c'est top. Alors j'ai confiance en Dieu pour les 95%, et d'habitude, ça marche.
Nous, on entend des cas qui ont divorcé, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas aussi qui...
qui marche, non? Parce que, sauf que ça, on n'en entend pas.
Il n'y a pas beaucoup de cas qui marchent. Je veux dire, il n'y a pas que le chidour qu'il faut, il n'y a pas que le chidour qui est fautif. Un mauvais chidour, on va dire, ou une connaissance qui est, on s'est connu pas par chidour, c'est pas forcément que c'est, que c'est à cause de ça que ça ne marche pas. C'est pas forcément si on a fait mal que ça ne marchera pas non plus. Ça peut marcher aussi bien qu'on ne s'est pas bien pris au début. Au Shambhait, il y a beaucoup de raisons. La raison principale, c'est que les personnes n'ont pas travaillé leur midot. D'accord ? Ils ont un ego extrêmement grand et ne sont pas prêts à s'écraser devant leur conjoint. C'est ça la base de tout, des problèmes de Shambhait. Mais les midot aussi, ça se vérifie dans le cadre d'un shidour et dans le cadre d'une enquête. Donc je reviens maintenant, parlons shidour. Parle pas comment régler tout Shambhait, parle maintenant shidour. Et mettre, au moins qu'on fasse de mettre de notre côté, dans le choix du partenaire, toutes les chances pour que ça réussisse. Comment je vais faire? J'ai besoin de l'aide de Dieu. Ok, donc d'abord je dois me comporter comme Dieu veut. Et Dieu me dit oui, shidour. Les autres méthodes, elles ne sont pas bonnes. Pourquoi? La logique simple me dit, comment tu peux choisir, prendre une décision grave alors que tout ton raisonnement est faussé? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner et après on va tomber amoureux. Alors comment on fait? Première chose, enquête. Tu vérifies, elle, chez les copines, chez les gens qui la connaissent, le caractère, la santé, la famille, les ambitions, les projets, tout ce que tu peux, tu vérifies. Avant de rencontrer. Ça correspond à ce qu'il te faut? Rencontre. Première rencontre, d'habitude, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut que ce soit sympa. Il faut que, si je parle comme ça, elle me répond comme ça, et on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ou bien, beaucoup font, hélas, l'impasse physique. Bon, ça... Il faut aussi un peu les malheureux occidentaux, hommes surtout, mais les femmes aussi, mais plus les hommes, ont été gavés de Miss Monde Univers qui d'habitude n'existent même pas. D'accord ? On a pris une mannequin, on l'a photographiée, après on l'a arrangée à l'ordinateur, on l'a agrandi ce qu'il fallait agrandir, on l'a rabaissé ce qu'il fallait rabaisser, et voilà. Et tu rêves d'avoir une femme comme ça. En plus, super orthodoxe et sainte. D'accord ? Donc, il faut atterrir un peu. D'accord ? Il faut atterrir. Mais, bon, ça existe l'impasse physique. D'accord ? Elle fait 150 kilos et toi, tu fais 60 kilos. Je peux comprendre que ce n'est pas tout à fait toujours ce qu'il faut.
Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt au commencer ?
Attends, ne mélangeons pas là. Je suis maintenant à l'enquête. D'accord ? On a fait l'enquête. Après, on a la première rencontre. Après, donc, première rencontre, tu peux dire non. Si il n'y a pas de bonne raison de dire non, on continue. Chose à ne pas penser, on rentre déjà un peu dans comment faire. Pas se dire, c'est peut-être ma femme. Ça bloque tout, parce qu'on est super paniqué. Tu ne peux pas rencontrer une femme une heure, te dire, c'est peut-être elle. On ne pense pas à ça. On rencontre, sympa. Il faut que la première rencontre soit sympa. Pas encore des sujets cruciaux. Deuxième rencontre, si c'est sympa, on commence lentement à parler des sujets cruciaux qu'on n'a pas pu vérifier dans l'enquête. Et on vérifie un peu quelles sont ses réactions, on lui demande quelles sont ses réactions dans ces cas, comme si les ambitions, les projets, etc. Il faut que ça corresponde. Plus de choses correspondent, moins il y aura de problèmes après. Maintenant, après entre 5 et 8 rencontres de 2 heures, on a parlé avec ces femmes de choses essentielles, on n'a pas fait que rigoler. On rigole un peu au début, on rigole un peu à la fin, au bout d'un moment, on parle de choses essentielles. Donc, tu as interviewé une personne sur elle-même pendant entre 10 et 20 heures. Des fois, on ne dépasse un peu les deux heures au bout d'un moment. D'accord ? Tu as eu entre 10 et 20 heures d'interview. Ça veut dire que tu connais sur elle presque tout. Avec l'enquête que tu as faite, ce que tu as parlé avec elle, tu connais sur elle presque tout. Rajouter des rencontres supplémentaires après 8, ça ne sert à rien. Des fois, on a des doutes, on n'arrive pas à prendre une décision. Oui, non. On fait une 9e rencontre, 10e, 11, 12. Ça ne sert absolument à rien. Après 20 rencontres, on n'est pas plus avancé qu'après la 8e. Jamais. Au bout de 8 rencontres, on peut peut-être encore rajouter un point. Évidemment, plus on va connaître la personne, plus les choses vont se préciser. Est-ce que ça correspond à moi ou pas? Donc, où on va plus partir vers le non, et plus on fait de rencontres, plus on voit que ça n'a rien à voir et on arrête. Ou bien au contraire, plus on avance, plus ça se précise que oui. Pardon ? On ne dit jamais nous qu'on veut pas. Un chidour, il est géré par une personne qui dirige le chidour. C'est très important D'abord, celle qui fera passer tous les messages, oui, non. Et aussi, elle va entendre les feedbacks et nous donner des conseils. Intelligent. Parce qu'il y a des choses que la femme ne doit pas dire au monsieur, le monsieur non plus. J'aime pas qu'elle porte des robes rouges. Je ne peux pas lui dire, la prochaine fois, porte une robe verte. Ça ne sait pas, d'accord. Tu peux dire à la châtraînette, elle saura faire passer. Vous savez, les gens, ils aiment bien plutôt écologique aujourd'hui, mettre un truc vert. Enfin, d'accord. Elle va trouver. Tu comprends, elle fera passer des messages que toi, tu ne peux pas faire. C'est très important qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Et si c'est non, bah c'est non. On ne se marie pas avec.
Si on arrive et qu'elle ne correspond pas.
Tu dis.
Bah, physiquement, ce n'est pas du tout notre.
Alors, la façon polie est de passer une heure et demie, deux heures avec elle, et bah, tu discutes un peu, c'est pas grave, dans ta vie, avec une jeune fille, après tu dis à la châtraînette, elle est très bien, très sympa, je suis pas intéressé, c'est tout. J'ai un cas, j'ai le frère d'un de mes gendres qui a été un chidour, toujours c'est l'homme propose à boire à la fille, d'accord. Alors, vient la serveuse, avec ce bon, moi je prends un peu d'eau plate, ouais, la fille elle prend une bière. Attends, c'est un monde orthodoxe, hein. Alors après ça, il dit que excuse-moi, j'ai un besoin, il est allé aux toilettes et il est parti en courant. Ça se fait pas. On fait pas un truc pareil, d'accord. Ça c'est la mauvaise façon. Ça c'est la mauvaise façon. Même si ça va pas, on tient le coup une heure et demie, on fait un petit rabais en deux heures, on descend à une heure et demie, on la raccompagne en taxi à la maison, on lui fait un grand sourire, au revoir, et voilà, et après on n'a pas le chartrain, elle est très bien, mais non, voilà, c'est tout. Rien de mal.
Oui. Et si on arrive à jouer des huit ronds.
Alors voilà, je continue maintenant. Donc, au bout d'un moment, ça se précise. Il y a des cas où on a un doute, on a un très grand doute, on ne sait pas, on n'arrive pas à prendre décision. Dans ces cas-là, ça vaut la peine d'aller voir une personne sage, qui s'y connaît, qui peut donner des conseils. Ils sont habitués à cela, ils ont l'expérience et donneront des bons conseils. Entre 5 et 8 rencontres, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une situation où, si on continue, tout va bien. Du point de vue de mes critères, c'est, on va dire, 90% rempli, c'est un très bon score. Alors on se marie? Non. En aucun cas. Parce qu'on a fait une seule des opérations, on a jugé, jugement positif, c'est bon, ça peut aller. On ne se marie pas avec une fille comme ça parce qu'elle correspond aux critères. Il manque l'essentiel, l'amour. Il faut qu'Hachem donne le feu vert. Il dit, c'est elle. Normalement, et c'est stupéfiant, hein, j'ai un barreau qui se marie dans 3 semaines. Il me voit à la 5e rencontre, il m'a dit, tout va bien, mais j'éprouve rien. Je lui dis, combien de rencontres t'as fait? Il m'a dit, 5. Non, pas de problème. Attends, entre 5 et 8, ça vient. Après, il vient me dire... On a fermé, c'est bon, on se marie. Après la 6e, je dis, comment, la dernière fois, tu ne savais pas encore. Ouais, bon, la 6e, c'est venu, je suis amoureux. Avec le grand sourire, il est chaud, tout ce que tu veux. D'accord? C'est magique. Entre 5 et 8, si c'est le bon numéro, l'amour vient. C'est pas l'amour. On sent dans le cœur que. Vous comprenez que dans le chidour, on ne veut pas laisser les sentiments. On n'est peut-être pas elle. Attends, si on se lâche et on tombe amoureux, après lui dit non ou elle dit non, on souffre beaucoup. Donc il y a une certaine retenue. Mais si on s'analyse, on sent que si ça sera oui, je peux tomber amoureux d'elle très facilement. D'accord? Ça veut dire que c'est là. S'il y a ça entre 5 et 8, tu as vérifié, tu es amoureux, on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas faire mieux que ça. On compte sur Dieu et ça marche. Le chidour, il est bien fait. Ça marche, ce n'est pas dire que le coup va réussir. C'est-à-dire que c'est ton mazal, c'est avec elle qu'il faudra commencer à travailler, t'annuler, t'écraser, elle aussi. Bon, au moins on sait. C'est avec elle que j'ai un programme qui est fixé. C'est clair que c'est ça. Si après 8 rencontres, il n'y a pas d'amour qui est venu, alors on dit au chatran, c'est exactement ce qu'il me faut du point de vue du livre, mais il n'y a pas de sentiment, on arrête. Et on arrête. Et ce n'est pas le bon numéro.
Si à ce moment-là, on s'est attaché à cette personne, on va plus tendance à comparer, par exemple, c'était pas celle-là, mais la prochaine, ça va être elle, mais quand on va commencer à comparer avec elle, elle était mieux, enfin voilà, par rapport à...
On peut faire un chidour, ça arrive, des chidours réchauffés. Je connais personne, ils ont fait 3 fois, ils ont fait toutes les premières fois, ça a arrêté. Après 6 mois, ils ont refait, ça a arrêté. Après 1 an, ils sont mariés. Ça existe, un chidour réchauffé, ça marche.
C'est-à-dire quoi, réchauffé, ils ont refait les chidours.
Après, ils sont rencontrés, ils se sont dit, bon, ça va pas. Mm-hmm. Puis après, ils ont rencontré d'autres gens, puis ça n'allait pas du tout. Alors, ils se sont dit, peut-être que le premier, elle aussi, s'est dit, ils sont revus, ça n'allait pas non plus. Ils se sont requittés, ils ont rencontré, ils ont galéré, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, et puis ils sont très heureux, ça arrive. C'est légitime, oui.
Ça doit passer obligatoirement par l'intermédiaire d'un rab.
C'est pas obligatoire, c'est très conseillé. Comme j'ai dit, d'abord, il a l'expérience, il va diriger, il va donner des conseils intelligents, il fait passer des messages. Des fois, un chidour casse à cause d'une bêtise. À cause de bêtises. La personne, d'abord, deux sortes de bêtises. Ou bien des messages qu'on a dû faire passer à l'un, ils ne sont pas passés. On ne peut pas les dire, des choses que je ne peux pas dire. Comme j'ai dit, la question de la robe rouge ou robe verte, d'accord. J'aime pas les talons. Je ne supporte pas, d'accord. Elle porte des talons. Il faut lui dire, la prochaine fois, viens en savate. Je ne peux pas lui dire un truc pareil, d'accord.
C'est si important.
Là
c'est
prends un exemple, je prends un exemple, d'accord.
Est-ce que ça doit être important?
Hein?
Est-ce que ça doit l'être?
Il y a un style qui peut te heurter ou pas te heurter, oui.
Et si ça ne heurte pas, ça ne va pas.
Si ça ne heurte pas, ça va. Si ça heurte, il faut voir à quel point c'est important par rapport à d'autres choses. C'est pas, le chidour, ce n'est pas noir ou blanc. C'est nuancé. Qu'est-ce qu'il y a comme qualité? Qu'est-ce qu'il y a comme défaut? Il faut voir. On n'est pas dans le sens exact. On est maintenant dans le sens humain. Maintenant, attends. Donc, premier problème, c'est qu'il y a des messages qu'on ne sait pas comment faire passer. Ça, le chatran, s'il est intelligent, il sait comment les faire passer. Deuxième chose, des fois, on arrête un chidour pour une bêtise. Et des fois, on continue, alors qu'il fallait sûrement, il fallait beaucoup l'arrêter parce que c'est un truc très mauvais.
C'est-à-dire une bêtise.
Je sais pas, moi, par exemple, où il y a un cas ici dernièrement, quelqu'un avait une histoire. Il y a eu un malentendu. Lui, il a dit comme ça, elle a dit comme ça, il n'a pas compris, elle était choquée, d'accord. Elle appelle la chatrani toute paniquée. La chatrani va lui expliquer, mais non, mais c'est un malentendu. Et s'il n'y a pas la chatrani qui était là pour expliquer, pour calmer le jeu, ben ils auraient arrêté. C'est une bêtise, un malentendu, ça arrive à un malentendu. Des fois, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. On ne fait pas attention à ça. Je ne sais pas, moi, il y a un problème psychiatrique grave, héréditaire dans la famille. Mais il y en a qui ne font pas attention, qui ne savent pas, d'accord. Alors, il faut dire, écoute, mon cher ami, comprends. Faut vérifier d'abord. Mais ça vaut la peine d'avoir prendre l'avis d'un psychiatre, vérifier. Quelles sont les chances que cette femme maintenant, elle ait aussi ce problème un beau jour ou les enfants. En fonction, tu prends une décision. Et des fois, les garçons sont inconscients. Non, elle est belle, elle est mignonne, on s'entend. Bon, le père, il est un peu malade psychiatrique, mais bon, c'est pas grave. Ben, il faut vérifier, il faut voir. Je ne dis pas que tous les cas psychiatriques sont peuvent se marier, mais il faut vérifier qui, quoi, comment, donc où. Donc, c'est important, hein.
On peut demander un bilan sanguin.
On appelle un psychiatre, voilà, le monsieur, il a cette maladie-là. Quelles sont les chances?
Ah, mais obligé, c'est dans ce
cas. Bien sûr.
Ah, bah, c'est super.
Bien sûr. Bien sûr. On vérifie la santé, on vérifie si il y a une maladie héréditaire dans la famille, et au niveau physique, au niveau psychiatrique, bien sûr. Il faut le faire. Et il y en a qui ne font pas. Il y en a qui ne font pas. J'ai eu des cas où il y avait dans la famille des problèmes pareils. Et je me posais la question, si je devais aller dire maintenant à la famille qu'il y a un problème. Si un problème chez le garçon, il faut dire. Mais si c'est dans la famille, je vais voir Rav Shtelman, j'ai envoyé un rabbin chez Rav Shtelman, il dit non, pas besoin de dire. S'il pose la question, il faut dire. Mais s'il ne pose pas la question, il ne faut pas dire. Je n'ai pas cru la réponse, parce que je sais qu'il y a un risque. J'ai envoyé un deuxième rab. Il me dit la même réponse. Je n'ai pas cru, je vais aller moi-même. Et il m'a dit la même chose. Donc ça veut dire, si maintenant, la famille qui fait le chidour, ce sont des gens bêtes, ils ne font pas l'enquête, bah c'est de leur faute, à eux, de faire une enquête. Donc il faut demander, quand même à l'échiva ici, j'ai des questions de routine. Parmi les questions, il y a, est-ce qu'il y a dans la famille des problèmes psychiatriques? Je dois savoir à qui j'ai affaire. Peut-être oui, peut-être non. Ce n'est pas forcément à cause de ça qu'on m'a disqualifié. Ça fait partie, pour revenir à l'échiva, pour un chidour, ça fait partie des questions basiques. Si on ne pose pas des questions, l'autre a une mitzvah d'aller dire, si lui il est malade, oui, mais si c'est dans la famille, non, il n'est pas obligé. À toi de poser des questions. Donc il faut poser des questions. C'est nécessaire.
Et pour les chidourim, il y a tous les niveaux.
Tous les niveaux de quoi?
Il y a tous les niveaux, c'est-à-dire.
Niveau de quoi?
De religion.
Les non-religieux ne font pas de chidourim.
Les
non-religieux ne font pas de chidourim.
Non, c'est-à-dire, je ne sais pas.
Ouais, il y a des chidourim super orthodoxes, un peu moins orthodoxes.
Je ne sais pas ce que ça veut dire religieux. Pour moi, je dis juste que.
Au niveau de la. On peut trouver tout type de fille, c'est-à-dire que ce soit une fille. Un peu plus sérieuse que nous, que ce soit une fille même limite.
Dans le monde religieux, avec toutes les variantes qu'il y a dans le monde religieux, de super ultra orthodoxe jusqu'à super cool. Mais religieux, cool. Moins que religieux, cool. C'est-à-dire non religieux, te dire, c'est un chidour, qu'est-ce que c'est chidour? C'est une rencontre organisée. Ouh là là, t'es un extrémiste, toi. Non, ça, dans le monde occidental, ça n'existe pas. On voit la fille, on vit avec, et après, on décide. Donc attends, est-ce que j'ai fini maintenant? Pourquoi est-ce que c'est avantageux le chidour par rapport. Par rapport au. Alors oui, quelle est ta question?
C'est par exemple, c'est un ami qui il connaît une fille qui cherchait quelqu'un et qui nous la présente.
C'est bien, mais il faut quelqu'un de sage qui dirige le chidour. Sinon, ça a de fortes chances de capoter bêtement.
C'est-à-dire quelqu'un de sage.
Un sage.
Quoi, carrément appeler un rave.
Un rave qui s'y connaît, ou une chatranite qui s'y connaît. Quelqu'un du métier. Voilà, de diriger le chidour. C'est important d'être dirigé. Oui.
Si on connaît déjà une fille depuis très longtemps,
je
pense que ça peut être la bonne.
Ouais.
Et c'est bien quand même de demander à un rab de dire, bah, peut-être pas tout reprendre à zéro, mais de dire, voilà, maintenant, il faut qu'il y ait un rab qui s'en mêle.
T'es capable de dire non? Quelqu'un vit avec il a une copine, je me mets en égale depuis 4 ans. Hein, il veut se marier. Alors, il écoute mon cours et il lui dit, écoute, on fait un chidour maintenant. Bon, on peut faire un chidour. La question, est-ce qu'il est capable de dire non? Si tu es capable de dire non, oui, ça vaut la peine, tu t'es trompé. Tu comprends qu'à 16 ans, tu ne réfléchis pas comme un bête. Hein.
C'est pas grave de dire non.
Bah alors, à quoi ça sert?
Est-ce qu'on peut faire un chidour avec une personne qu'on connaît?
Oui, c'est conseillé.
Ah, c'est vrai?
C'est conseillé. À faire un chidour avec quelqu'un qu'on connaît? Oui.
Non. Ah. Il parle d'une personne qu'il connaît.
Très bien, c'est le mieux. Pourquoi aller chercher maintenant faire une enquête? Je connais la famille, c'est la voisine, d'accord? La fille de la voisine, c'est elle, d'accord? Tu connais la famille par cœur, tu sais à quel point, hein, quand tu crées la maison, tu entends tout.
La voisine, c'est pas forcément une chatranite.
De qui tu parles maintenant? Un garçon, est-ce qu'il peut faire un chidour avec une fille qu'il connaît déjà? Oui, c'est conseillé, parce qu'il n'a pas besoin de faire trop d'enquêtes vu qu'il la connaît. Donc il n'y a pas trop d'entourloupes possibles. Oui. On fera un deuxième cours là, de l'univers. C'est un sujet long et important. Oui.
Je connais beaucoup de personnes qui, dans mon entourage, qui sont avec ils ont fait un chidour. Ça a duré pas mal de temps et le problème c'est que c'était au niveau de la famille. C'est-à-dire que la famille c'était pas d'accord sur quelques points au niveau du mariage, etc. Trois, les aides financières, etc. Donc ça, ils ont dû s'arrêter pas.
Dans l'enquête, avant le chidour, avant de rencontrer la fille, on doit aussi mettre dans le coup les parents. Voilà, il y a une fille qu'on me propose, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est la famille comme ci, là. Ça vous va ou pas? Si on sait qu'on va partir en guerre, les parents disent impasse, impossible, jamais, alors ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. Pourquoi tu rentres dedans? Tu comprends que c'est tordu. Tu rentres, d'abord tu fais le chitour, tu tombes amoureux, et après tu dis papa, maman, on va se marier. Et les parents, tout d'un coup, ils prennent une crise de nerfs. C'est crétin. Avant de la rencontrer, demande aux parents est-ce que ça peut aller. Ils te disent oui, mon fils, c'est bon, ok, on y va. Ça fait partie de l'enquête. Dans l'enquête, on vérifie maintenant est-ce que ça correspond aussi à la famille. La famille, on regarde la famille. Est-ce que la famille correspond à ma famille? À quoi ça sert d'avoir des problèmes de belle-mère après qui se tire au Kalachnikov?
Quelqu'un va faire un chidour sans avoir eu l'accord, sans avoir demandé à ses parents. Tout se passe bien et il revient 20 heures après en disant voilà, je vais me marier.
Ça peut réussir.
Les parents, ils peuvent dire non, ça fait qu'un mois que tu la connais, on refuse.
Donc ça vaut la peine, dans ce cas-là, de mettre les parents au courant. C'est vrai que ça va vite. Les gens, quand, des fois, ils viennent me dire, je m'en vais rentrer dans le chidourim. Ils s'imaginent, bon, quand le chidourim, je m'arrête peut-être. Mais mon cher ami, si tu fais un chidour, si tu veux que c'est la bonne, dans 2 semaines, tu fais un avorte. Dans 3 mois, tu es marié. C'est comme ça, mon cher ami. On fera un cours sur ça la prochaine fois. Bah, au revoir, Donald.